Bonjour, alors la question aujourd'hui c'est est-ce que tu pourrais nous dessiner un clitoris?
Je vais essayer.
Je pense que oui, je vais essayer. Puis mon collègue va m'aider, va peut-être me donner 2-3 conseils.
Delphine Gardet, une historienne sur les traces des femmes.
La faiblesse des traces laissées par les femmes. Songez à la transmission du nom, elle est masculine. Les démographes, il y a quelques années, ont voulu faire une enquête qu'on a appelée l'enquête TRA, c'est-à-dire prendre tous les noms, commençant par TRA, pour reconstituer les lignées à travers l'état civil qui, comme vous le savez, religieux d'abord, remonte au XVIe siècle. Eh bien, très sagement, parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, les démographes ont exclu les lignées féminines, puisque ils ne pouvaient pas les retrouver, la femme abandonnant son nom au moment du mariage. Donc, on voit par cet exemple que les femmes, les traces sont cachées, en quelque sorte. Par conséquent, il y a là un véritable problème d'enregistrement des actions des femmes.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun, sur France Inter.
Avec Delphine Gardet, bonjour.
Bonjour.
Votre marraine, enfin attendez, je veux dire, votre directrice de thèse, on vient de l'entendre il y a un instant, Michel Perrault, trace.
Essentiel, indispensable, Michel Perrault.
Et votre devise, désir de savoir, pulsion de voir. Enfin ça c'est moi qui vous l'applique cette devise, je l'ai peut-être inventée, mais ça vous va assez bien, non?
Oui, c'est-à-dire vraiment toujours aller chercher derrière, aller chercher au-delà, remonter les traces, les vestiges, la matérialité, pas seulement les discours.
Libido sciendi, je dis libido à dessein parce que désir de savoir, on vous imagine en bibliothèque, vous êtes professeur à l'université de Genève. Pulsion de voir, il y a quelque chose de sexuel dans la pulsion de voir.
Alors là, c'est davantage pour décrire ce qu'il en est de ces messieurs qui vont produire du savoir à propos de l'anatomie féminine.
Ah bon, d'accord. Mais on va y venir à l'anatomie féminine et au livre, le dernier que vous venez de faire paraître chez Textuel, Politique du clitoris. Mais avant, j'aimerais qu'on évoque des travaux plus académiques, patronnés justement par Michel Perrault. Les employés, les secrétaires, le métier de votre mère d'ailleurs.
Oui, la dactylo, m'avait dit Michel Perrault. Occupez-vous des dactylos, personne ne s'en est occupé. Et puis au fond, je suis partie des dactylos et j'ai écrit plutôt une histoire du groupe, des employés de bureau. D'école blanc, au bas de soi, c'est-à-dire de tous ces messieurs hein, qui...
En fait, ces messieurs.
Et on avait oublié qu'être employé de bureau, c'était un métier pour les hommes, et seulement pour les hommes, jusqu'à ce que ça devienne un métier pour les femmes, et que pour les femmes.
Écrire, classer, compter.
Ça, c'est pour les historiens, l'habilitation à diriger les recherches, pour montrer que je suis une bonne fille, une bonne historienne, sérieuse. Je m'inscris dans le pas de l'histoire intellectuelle, matérielle.
Alors, vous avez été à l'université en France, vous avez été au CNRS en France, vous voilà maintenant à l'université de Genève, Institut des études genre.
Sans doute inapproprié du point de vue du français, mais ça marque peut-être cette difficulté entre gender studies et l'acceptation du concept de genre dans la scène académique de langue française.
Alors genre, quelque chose de subjectif, de culturel, sexe, quelque chose de naturel?
Non, il faut justement rompre la division entre les deux. Donc maintenant, moi souvent je mets un slash, vous savez, une marque sexe-genre avec un slash au milieu, puisqu'au fond, l'intérêt c'est de réfléchir à ce qui est construit dans l'ordre de la culture, mais aussi dans l'ordre de la nature, ou ce qui est défini, ou... Comment dire, qui va être interprété dans une langue et dans une culture.
Vous n'aimez pas beaucoup le binaire, vous préférez la continuité.
Je pense qu'en tout cas, on doit, en tant qu'historien historienne, montrer que le binaire est quelque chose qui a une histoire et une localité. L'Occident est vraiment fan du binaire à partir de la fin du XVIIIe siècle, en tout cas pour ce qui concerne la dichotomie de genre qui se fonde à ce moment-là.
Politique du clitoris, chez Textuel, votre nouveau livre, on va commencer par la question de la représentation. Une de vos élèves, devenue un peu activiste, avait dessiné sur les trottoirs de Genève un clitoris.
Oui, des étudiantes à Genève, qui sont des militantes, ont dessiné à la craie un clitoris sur le trottoir. Et puis elles ont été verbalisées par la police de Genève, avec un petit peu d'hypocrisie, puisqu'on a dit que ce n'était pas tant l'acte qui était puni que le fait qu'elles avaient entravé la chaussée avec leur bicyclette.
Mais maintenant, on peut représenter le clitoris comme le château de Chambord, je veux dire en 3D.
C'est un des phénomènes qui se produit actuellement, hein, cette volonté de le rendre visible dans sa structure anatomique telle qu'on la connaît, hein, depuis à peu près la fin du XXe siècle. Et donc ça passe par des mises en forme et aussi des performances, dont le volume, qui est un élément très important.
Si vous voulez bien, je vous propose d'entendre un grand producteur de France Culture, pas très connu, qui s'appelait Harold Portnoy, qui faisait des émissions assez étonnantes, quel que soit le sujet qu'il l'occupe. Il y avait dans les années 60 le rapport Master-Johnson sur la vie sexuelle dans la pratique. Peut-être le docteur qui l'interroge ici est-elle inspirée par la lecture de ce rapport. Elle va insérer le clitoris dans un complexe, dans un système.
C'est dans sa nature, au sens anatomique et physiologique du mot, que la femme est bien sûr différente de l'homme. Pour le docteur Jacqueline Renaud, la complexité du système sexuel féminin comparée au système sexuel masculin est à l'origine de ce difficile dialogue.
Anatomiquement, la femme possède finalement un double système sexuel. Elle possède un système que j'appellerais un système purement et simplement de plaisir, et elle possède un système de reproduction. En fait, ces deux systèmes, c'est-à-dire le système clitoridien et le système vaginal, enfin, qui commence par le vagin, qui se continue plus haut par l'utérus, qui va se continuer encore plus haut et latéralement par les trompes et tous les ligaments qui entourent tout cela, il y a là vraiment énormément d'organes, enfin une masse d'organes extrêmement importante, qui est liée au premier système. Si bien que tout cet ensemble de choses, bien sûr, ce petit clitoris est plus petit que l'organe masculin, mais si on compte, et certains anatomistes l'ont fait, si on compte le nombre de nerfs destinés à transmettre dans les centres, au cerveau qui va apprécier tout cela, donc le nombre de nerfs qui peuvent transmettre des sensations voluptueuses, il en part, pour la femme, il en part de tout cela. Il en part aussi bien de son clitoris que de l'ouverture de son vagin, c'est-à-dire la vulve, que de tous les ligaments qui sous-tendent, qui suspendent l'utérus, les trompes et les ovaires. Et lorsque tout cela se met à fonctionner ensemble, évidemment, ça apporte finalement au cerveau une masse de sensations d'une énorme puissance comparée à la quantité de nerfs qui innervent l'organe sexuel masculin.
Une émission de février 1968. Alors, d'habitude, les organes masculins et les organes féminins sont mis en parallèle dans un système binaire, ce que vous n'aimez pas trop, Delphine Gardet, et il est rare qu'on entende qu'il y a une supériorité organique de la femme.
Sans doute est-ce la caractéristique des années 60, de la fin des années 60, de valoriser cette puissance et cette jouissance féminine, on ne pouvait pas le faire auparavant. Donc on a un renouveau, on pourrait dire, des connaissances physiologiques qui est lié aux travaux de Master et Johnson, la physiologie de l'orgasme. Ils ont travaillé en laboratoire sur l'orgasme féminin, beaucoup, et puis sur des orgasmes hétérosexuels, le coït en laboratoire. Et donc ils apportent des connaissances physiologiques nouvelles, inédites, qui montrent l'incroyable fonctionnement, la capacité orgastique des femmes, en tout cas.
La montée en puissance, dit Jacqueline Renaud.
Exactement. Et la question va davantage être celle de la pénétration plutôt que de l'orgasme. C'est-à-dire qu'au fond, si les femmes, qu'on dépeint toujours comme frigides, le sont, c'est peut-être moins parce qu'elles n'ont pas la compétence ou la fonction ou la capacité physiologique d'atteindre l'orgasme que parce qu'elles sont moins orgasmatiques du fait de la pénétration. Donc là, ça pose une autre question. Donc toute la question de la masturbation, des relations homosexuelles, qui apparaissent comme des questions sociales, médicales, politiques dans les années 68-70.
Vous avez entendu, le docteur Jacqueline Renaud parle de deux systèmes. Vous préférez, vous, le mot système clitoridien plutôt que clitoris?
Oui, alors je pense que c'est un petit peu les terminologies d'aujourd'hui. On parle de complexe clitoridien aujourd'hui, hein, après les travaux de l'urologue Hélène O'Connell qui commence dans les années 98. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on a déjà la mise en évidence de cette dualité, qui est une dualité qui est problématique depuis toujours, finalement, puisque les femmes se retrouvent avec un en sus, un en plus.
Vous avez noté que vous utilisez souvent cette expression « l'inventaire des ressources possibles ». Et là, en matière orgasmatique, oui, l'inventaire des ressources possibles des femmes est à leur avantage.
Oui, elle l'est, et du coup, il va falloir mettre un bon ordre à cette dissymétrie, finalement, et à cet avantage.
Alors, si vous voulez bien, maintenant, qu'on a fait l'état des connaissances et des pratiques récentes, on va remonter en arrière dans l'histoire du beau, ainsi que vous le faites dans Politique du clitoris. Tiens, ça s'appelle pas Histoire du clitoris, ça s'appelle Politique du clitoris. Je pense qu'on aura à y revenir. Vous connaissez cette vidéo qui prouve que le clitoris est à la mode, hein ?
Oui.
Le clitoris est à la mode.
Depuis 2-3 ans, il est très très à la mode, oui.
C'est bien.
C'est très bien.
Ouais. Laurie Malpar-Traversy, c'est une Québécoise.
Les femmes sont chanceuses. Elles possèdent le seul organe du corps humain qui sert uniquement au plaisir, le clitoris. Le clitoris a été plusieurs fois découvert et redécouvert par des hommes. Même si on connaissait le clitoris dans l'Antiquité, c'est en 1559 que le chirurgien italien Realdo Colombo l'identifie officiellement. Par la suite, le clitoris a souvent été oublié ou mal représenté dans les livres. Jusqu'au 19e siècle, l'Église catholique conseille aux femmes de jouir pour libérer leurs tensions sexuelles. Mais dans les années 1800, des médecins prétendent que l'orgasme provoque chez les femmes des maladies comme l'hystérie, et ils déclarent que le clitoris est un organe complètement inutile. Et puisqu'il ne sert qu'au plaisir, pourquoi ne pas s'en servir?
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Laurie Malpar-Traversy nous dessine un chemin qu'on va pas laisser interrompre par la chirurgie. On va d'abord commencer par les premières époques, si vous le voulez bien, Delphine Gardet, qu'elle évoque. L'Antiquité, le Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, le mot n'existait plus, la chose avait disparu.
Au fond, oui, il y a des problèmes de nomination, on ne s'entend pas vraiment sur ce qui est nommé. On a des termes, tindigo, landica, hein, qui existent en latin, mais comme les historiens de l'époque médiévale l'ont montré, souvent l'anatomie est d'abord une science des mots. Et donc, comme les mots voyagent du grec au latin, du latin à l'arabe et reviennent, on perd un petit peu les organes avec la perte des mots. Et puis, on n'a pas exactement les mêmes descriptions, les mêmes focalisations sur l'organe. Donc, ce à quoi on fait référence, les labia minora, enfin, toute une série, les lèvres, est assez instable, finalement. Même si on a, en fait, des descriptions dès l'Antiquité, hein, avec le terme clitoris qui est proposé dès l'Antiquité grecque.
Ressurgissement du mot au milieu du XVIe siècle.
Alors, de la chose peut-être avant le mot lui-même, ce qui est intéressant, c'est de réfléchir, parce qu'on a une science des corps qui n'est pas une science qui entreprend les corps en tant que tel, hein, dans ses savoirs anatomiques d'avant la Renaissance. Mais avec la dissection, on va désormais avoir une entreprise de palpation d'objectivation et un travail sur les corps. On va donc, sous le scalpel, découvrir, entre guillemets, hein, des organes, des éléments du fonctionnement anatomique. Et ça, c'est nouveau. Et il faut aussi, donc, raccorder ce qui surgit sous le scalpel avec les connaissances et les corpus disponibles et aussi, donc, avec les mots et les termes disponibles.
L'inventaire des ressources disponibles.
Voilà.
Vous y prends.
Oui, exactement. Ben, c'est-à-dire qu'en fond, on ne peut pas, on innove, mais on innove en restant dans une forme de tradition, toujours en science. C'est-à-dire qu'on doit être reconnu par ses pairs, par ceux qui précèdent. Colombo Bousse est un élève de Vézal, et Vézal va s'opposer.
Vézal, c'est les planches anatomiques.
Voilà, oui. Et Vézal va s'opposer à l'idée de découverte. Alors évidemment, il y a une prétention incroyable de la part de Columbus de dire qu'il vient de découvrir le clitoris. Les femmes font usage de leur clitoris depuis fort longtemps. Elles n'ont pas eu besoin qu'il soit là pour le leur montrer. Mais donc, il dit qu'il le découvre sous son scalpel. Et il y a une dispute de priorité avec Fallopio, celui qui a laissé son nom aux trompes de Fallope, qui prétend que c'est lui qui l'avait découvert 2 ans auparavant. Et Vézal tranche entre ses deux élèves en disant « pas du tout, de toute façon, le clitoris ne fait pas partie de la structure anatomique normal des femmes. »
Alors, les femmes qui ont un comportement anormal, notamment dans leur vie au lit conjugal, vont se voir menacées de se voir ôter leur clitoris. Et là, les chirurgiens interviennent de nouveau, et devant leur père, ceux qui sont capables de cette opération gagnent en prestige. Là, on est maintenant au 19e siècle.
Oui, tout à fait. En fond, on voit déjà que cet organe trouble, il est en plus en trop, et il peut être vu comme il est érectile, comme une menace. Il l'est dès le 17e. Mais au cours du 19e siècle, on va avoir des chirurgiens, Isaac Baker Brown, qui va être expulsé de l'ordre chirurgical londonien à cause de ses pratiques.
Attendez, à cause de ses pratiques, mais vous les étudiez. Vous dites c'est pas parce que ces pratiques sont condamnées, c'est parce qu'il manque de discrétion.
Il manque de discrétion, il fait de propagande de ses résultats médicaux, et il manque de discrétion vis-à-vis des patients et des patientes, vis-à-vis des messieurs, enfin des maris. Finalement, il se discrédite en tant que gentleman, médecin. Mais il fait des ablations clitoridiennes, des écrasements. Donc on a pratiqué l'excision en Occident, oui.
Jusqu'à il n'y a pas si longtemps.
Jusqu'aux années 20 du 20e siècle. On a donc des travaux qui le montrent pour les États-Unis sur 2 types de populations. Celles qu'on appelait qu'on désignait comme des hystériques ou des masturbatrices compulsives. Et puis aussi des femmes de la haute société dont les époux se plaignaient qu'elles ne parvenaient pas à assurer leur bonheur dans le cadre de la chambre matrimoniale.
Et ne parlons pas des femmes luxuriantes, c'est un mot que vous utilisez parfois, et qui vont être qualifiées, c'est un mot qui est ancien, 16e, 17e siècle, qui précède de loin le mot homosexualité ou le mot lesbianisme, le mot tribade, les femmes tribades, que décrit ainsi Marie-Jo Bonnet, une autre étudiante de Michel Perrault.
Quand j'ai regardé dans le Larousse du 19e siècle, Larousse universel, dit-il, j'ai regardé la définition du mot tribade, j'ai vu femme qui abuse d'une autre femme et femme dont le clitoris a pris des proportions démesurées. Je me suis dit, mais où est-ce qu'il a trouvé ça? Depuis le 16e, 17e siècle à peu près, début du 17e siècle, tous les anatomistes ont décrit les femmes, les tribades donc, les ont décrites pourvues d'un clitoris énorme et grâce auquel elles pouvaient faire l'amour avec les femmes, bien entendu.
À tel point qu'on a coupé les clitoris au 19e siècle.
Oui. Oui, c'était tout à fait dans la logique du discours médical, de toute façon, d'arriver jusqu'à l'ablation du clitoris, puisque la seule façon de guérir le tribadisme, c'était donc de couper la cause du mal. La disproportion est vers 1880. Le docteur Martineau a pratiqué quelques ablations du clitoris en France.
Pendant mon voyage à Londres pour assister au Congrès médical international, j'ai eu la chance de me rencontrer avec monsieur le docteur Jules Guérin. Monsieur le docteur Jules Guérin m'a affirmé avoir guéri des jeunes filles affectées du vice de l'onanisme. Et lorsque tout traitement avait échoué, en brûlant le clitoris au fer rouge. De retour, je n'ai pas eu de mal à faire accepter par la famille le conseil du savant académicien.
Il fallait qu'on dise que la clitoridectomie a été pratiquée aussi en France. Parce que vous avez cité Baker Brown, mais là, Guérin, Martinan, d'autres peut-être.
Oui, dans toute l'Europe, manifestement. Ça ne veut pas dire que c'était très fréquent, mais ça a existé. Et c'était une des méthodes matérielles de répression de la sexualité et de la personnalité féminine. On a aussi beaucoup réprimé par l'intimidation psychique.
On peut en venir, logiquement, à l'excision.
Oui.
L'excision, elle a été étudiée par une psychanalyste, Marie Bonaparte.
Alors, elle est fantastique, évidemment. Elle a laissé un texte magnifique, donc qui est connu, hein. Et c'est le premier texte, à mon avis, qui, enfin, à ma connaissance, qui établit une symétrie entre ce qui se passe en Occident et les questions qui se posent à, vis-à-vis de la frigidité des patientes, hein, de Freud. Marie Bonaparte est une disciple de Freud, son exécutrice testamentaire. Et de l'autre côté, elle investigue, elle enquête sur ce qu'il en est des pratiques dans d'autres pays, dans d'autres contrées en Afrique.
J'ouvre une parenthèse, vous avez cité Freud. Souvent les féministes, vous en êtes, hein, Delphine Gardet.
Oui.
Sont, face à la psychanalyse, extrêmement sceptiques quand elles ne sont pas offensives. Parce que dans les textes du bon docteur Freud, il est quand même dit plus d'une fois que les femmes, et c'est marqué pour elles dès l'époque de l'enfance, ne peuvent parvenir à la véritable féminité qu'en devenant épouses et mères.
Oui, donc Freud est un homme de son temps, et donc il pense en homme de son temps. Il hérite d'un schéma de pensée, il est émancipateur quand il pense par exemple que la sexualité infantile est normale et nécessaire au développement de la vie psychique de la personne, et à son, au fait qu'elle advienne comme adulte. Mais cette promesse finalement d'émancipation, il ne l'accomplit pas complètement pour les femmes, puisqu'au fond les femmes doivent renoncer selon lui à la sexualité infantile, c'est-à-dire au clitoris, pour advenir en tant que femme dans une sexualité qui sera donc conjugale et pénétrative. C'est cette distinction qui s'introduit, donc c'est pas Freud lui-même qui l'a faite en tant que telle, hein, entre l'orgasme clitoridien et l'orgasme vaginal.
Donc la libido serait d'abord phallique.
La libido est d'abord, le référent est masculin, de toute façon, il est masculin, oui.
Et ça c'est le système symétrique binaire que vous n'aimez pas.
Eh bien, c'est-à-dire que c'est un système qui est de son temps, et donc on doit travailler avec et contre, hein. Et d'ailleurs, d'aucunes vont le faire, puisque la critique, on pourrait dire, des femmes à l'intérieur de la psychanalyse est contemporaine de la pensée de Freud.
Je referme la parenthèse sur Freud, et on en revient à l'excision. Longtemps, on a pensé que c'était le pendant de la circoncision.
Oui, c'est ainsi que les anthropologues le rapportent, les anthropologues européens, américains. Et donc, on pourrait dire qu'il y a une grande insensibilité à la question de l'excision féminine de la part de la corporation des anthropologues masculins qui se promènent dans toute une série de régions du monde.
Et qui imaginent toujours des systèmes symétriques et binaires.
Exactement, c'est cette formalisation autour de la notion de rite de passage. Les filles accéderaient à un statut par le rite et par l'excision, de la même façon que le garçon accéderait à son statut d'homme par la circoncision.
On a oublié que l'Occident, jusqu'aux années 1920, pratiquait parfois l'excision, et on se la représente maintenant comme étant le fait, par exemple, de populations africaines qui, transplantées dans leur pays, par exemple à l'époque des vacances, organisent l'excision de leurs filles. Le témoignage d'Alimata Fofana, qui d'origine sénégalaise, vit en France, mais a subi l'opération dans son pays.
Une enseignante m'avait dit « Oui, on n'arrive pas à trouver de femmes qui parlent de l'excision. » Mais je lui ai dit « Mais vous rendez compte ce que c'est que de parler de l'excision ? » Je vous rappelle que cette pratique est faite dans les familles, par les parents. Et vous voulez que ces femmes viennent s'exposer ? À l'école, on nous a appris les choses, on nous a appris l'égalité entre les hommes et les femmes, on nous a dit que la femme était libre, que la femme était l'égale de l'homme. On a appris ça à l'école. Et chez vous, vous avez subi l'excision, où c'est totalement l'inverse. Là, par l'acte de l'excision, on vous explique, mais de manière implicite, que même votre propre corps ne vous appartient pas. Pourquoi ? Parce qu'un autre a mis sa main dans ce qu'il y avait de plus intime en moi.
Le site de Paris Match, le poids des mots. Delphine Gardet, vous dites qu'il faut se méfier quand même de l'ethnocentrisme. Il ne faut pas que les femmes d'Afrique soient parlées par les féministes des classes moyennes européennes, mais écoutées.
Oui, et puis entendues. Et elles ont eu à s'exprimer, elles se sont exprimées, et elles s'expriment depuis les années 60, 70, 80, et elles revendiquent le fait d'avoir de l'expérience et de l'expertise, et de pouvoir aussi, à leur place et où elles sont, savoir comment transformer les choses.
On parle en même temps de vos perspectives sur le féminisme, et pas seulement du clitorisme. Vous avez un grand intérêt pour un courant afro-américain, le black féminisme ?
Alors, il est absolument essentiel, il nous sert énormément et il nous inspire, mais malheureusement, on le connaît depuis finalement assez peu de temps en France. On est resté dans une tradition très républicaine, universaliste. On a du mal à entendre que de l'expérience du savoir émerge de la part de celle que nous définissons comme dominée.
Et qui se situe, c'est peut-être un motif d'intérêt, à l'intersection, toujours le mot intersection, de plusieurs oppressions simultanées, connectées.
Oui, en tout cas, c'est ce qu'elles vont exprimer et théoriser, puisqu'on a de grands textes théoriques du féminisme américain qui naissent dans ces années et qui nous sont maintenant enfin donnés à lire, non seulement en anglais, mais aussi en français. Et nous devons travailler en France avec ces corpus pour réfléchir à la question de l'altérité et de la colonialité, c'est-à-dire de la présence aussi du rapport colonial, encore et toujours, dans nos sociétés.
Je profite de votre présence pour nous aider à définir le mot intersectionnalité.
Un mot difficile.
Oui, mais qui est de plus en plus utilisé. Alors, oui, il faut bien passer par une définition.
Oui, c'est une approche par laquelle, en deux mots, on essaye de voir comment se conjuguent, non pas seulement s'additionnent, des expériences de minorité, hein, de minorité au titre du genre, c'est-à-dire de la position femme-homme-autre dans le continuum des identités possibles, au titre de ce qu'on appelle la race ou l'ethnie, hein, c'est-à-dire de la couleur ou de l'expérience culturelle ou ethnique, et puis au titre de la position sociale. Donc c'est ce triptyque genre-race-classe qui est très efficace pour les questions juridiques, etc., mais qui pour moi en tant qu'historienne n'est pas forcément, est un petit peu fixiste, donc me pose des problèmes. Je pense qu'on doit le reformuler toujours et encore pour comprendre de quoi il s'agit véritablement.
Mais quand on vous reproche dans la corporation des historiens d'être trop théoricienne, que répondez-vous ?
On ne peut pas écrire l'histoire sans penser.
C'est pas l'anecdote, c'est pas le journalisme l'histoire.
Non.
Et même s'il y a les mêmes méthodes que celles du journalisme à certains égards.
Oui, il y a la dimension de l'investigation, mais il y a aussi la dimension des questions. Depuis Foucault, l'histoire s'écrit avec la théorie, elle s'écrit avec la philosophie, elle s'écrit avec les sciences sociales, elle devient productrice elle-même d'une alternative à ce qu'est la société, donc elle pense.
Dites-moi, il y a quand même une théorie qui m'étonne un peu dans ce que vous dites. La science est la continuation de la politique par d'autres moyens.
Alors ça, c'est une citation que j'emprunte à Bruno Latour, donc qui est une parodie de la citation de Claude Vitz.
Sur la guerre.
Sur la guerre, voilà, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de regarder comment à la fois, évidemment, la science se définit toujours comme une pratique hors du social, hors des cultures, et elle l'est, bien entendu, en partie, hein, mais quand même aussi, et en même temps, comment elle est toujours et déjà ancrée dans des pratiques et des cultures. On pourrait dire que le médecin, le scientifique, quand il rentre dans un laboratoire, même s'il revêt une blouse blanche pour faire ses expériences, il arrive dans un environnement scientifique et technique, hiérarchique, il arrive dans un milieu avec des instruments, avec une langue, avec des savoirs, avec des prénotions, avec des métaphores qui sont celles de son temps.
Souvenez-vous de ce que disaient les biologistes quand la biologie s'est reconstruite sur le principe de la biologie moléculaire. Ils s'insurgeaient, ces biologistes modernisateurs, contre la politisation de la biologie. Je sais pas, Lamarck, toujours en vogue au XXe siècle, Lysenko qui pensait qu'on pouvait faire pousser des orangers au bord du lac Balaton, et Jean Rostand disait « les chromosomes ne doivent pas être politisés ».
Alors certes, on comprend bien le point et on l'entend, mais en même temps, par exemple, dans l'histoire de l'endocrinologie, les organes, tout ce qui est défini comme le plus petit, c'est aussi et déjà une façon de définir et concevoir le corps qui est culturel et localisé, qui appartient à une époque et à une société. Donc, même le régime de métaphore de tout définir en termes génétiques, par exemple, hein, ou en termes d'information, on voit comment les métaphores circulent, hein, de la théorie de l'information à la théorie cybernétique. On a donc toute une série de contaminations. On ne peut pas établir de frontières définitives entre la culture et les sciences. Donc, un grand historien des sciences l'avait dit, on ne peut pas différencier entre les sciences et la culture, pas plus qu'on ne peut différencier entre le lit de la rivière et la rivière.
Et puis, conclusion de Politique du clitoris aux éditions textuelles. On a compris le sens du mot politique, là. L'organe ne fait pas le corps ne fait pas l'identité, l'invention est ailleurs. On a compris que vous n'êtes pas fixiste. Merci à vous, Delphine Gardet. Cette émission a été préparée par Franck Olivard, avec Étienne Bertin à la réalisation, Kevin Pelot et Alix Barrois à la technique.